Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans le courant des années 90, plusieurs rapports accablants sortent sur le sujet. L'un d'entre eux est écrit par une sœur, Maura O'Donohue, qui travaille sur le sida pour une branche de Caritas. Les informations qu'elle possède lui ont été transmises par des sources internes, des missionnaires des deux sexes, des membres de la famille ecclésiastique, des médecins. Toutes racontent des abus sexuels, des viols, des violences commises par des hommes d'église, des prêtres, pour la plupart, sur des religieuses. Les victimes sont difficiles à compter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. La plupart ont porté plainte ou constitué des dossiers. 23 pays sont concernés par ces abus et violences sexuelles. Beaucoup en Afrique, mais aussi aux États-Unis, en Irlande et en Italie. Transmis au Vatican, ce rapport, que vient compléter celui d'une autre sœur, ne donne suite à aucune action ou prise de position. Puis en 2001, le journal américain The National Catholic Reporter les rend publics pour la première fois. Le Saint-Siège est à la suite de cela sommé de réagir par des parlementaires européens, mais pas grand-chose ne s'ensuit non plus pour protéger les femmes ou punir les coupables. Résultat de 2 ans d'investigation et diffusé sur Arte le 5 mars de cette année, une nouvelle enquête intitulée « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église » revient sur des affaires qui concernent cette fois plusieurs communautés en France. Signée par Marie-Pierre Rimbaud, Elisabeth Drévillon et Éric Quintin, le film glaçant raconte des années d'emprise mentale, d'instrumentalisation de la foi et de violences sexuelles progressivement installées au sein de l'institution. 2 des femmes qui y apparaissent ont accepté de se confier également à Stéphanie Thomas pour Les Pieds sur Terre, plus une dont voici les histoires que nous avons appelées, vous entendrez pourquoi, le petit instrument de Jésus.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, les photos sont dans un de ces tiroirs.
Alors, Carmel.
Voilà. Ça, c'est une photo de moi prise quelques mois, je pense. Oui, 2-3 mois avant mon entrée au Carmel. Donc, j'avais 21 ans. Je pense 67, c'est la prise d'Abyss. À 21 ans, je suis entrée dans un Carmel de la région parisienne, où je suis restée décembre 66 à août 74, 7 ans et demi. Une des caractéristiques de l'ordre, c'est qu'on a 2 heures d'oraison silencieuse par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Bon, après ça, au Carmel, il y a aussi quelque chose qui peut être assez pénitentiel. D'ailleurs, Sainte-Thérèse le disait, que la grande pénitence au Carmel, c'est la vie fraternelle. Parce qu'il y a évidemment des sœurs qu'on trouve sympathiques, d'autres qu'on trouve moins sympathiques, et avec qui on doit quand même vivre tout le temps. Et on rencontre toujours les mêmes personnes. Hein. C'est voilà, comme on est la vie en clôture, c'est que on sort pas dans la rue et puis bon, on va pas au café pour se changer un peu les idées. Donc c'est pas toujours facile. Mais voilà, et puis c'est aussi une vie de travail. Bon, ça, le travail, ça m'a jamais dérangé. Les 2 premières années et demie, ça, j'étais très heureuse. Et puis ma maîtresse des novices m'encourageait. Elle n'avait pas beaucoup de bon sens et elle m'encourageait dans la voie d'un espèce de forcing mystique où j'aurais eu besoin d'être guidée avec sagesse. Et ça, la sagesse, non, elle n'avait pas. Donc j'ai commencé à souffrir de dépression sans pouvoir mettre les mots là-dessus parce que ma maîtresse des novices m'assurait que c'était les épreuves normales de la vie spirituelle, religieuse, etc. Et elle me disait, mais si vous allez voir, faites profession, ça ira mieux après. Donc, j'ai fait profession. Et ça n'a pas été mieux après, du tout, du tout, du tout. Au contraire. Donc, mon ancienne maîtresse des novices, qui était devenue prieure, me dit un jour, je pense que vous auriez besoin d'un accompagnement en dehors de la communauté. Et elle me dit, ben, voulez-vous que je demande au père Marie-Dominique Philippe? Alors, le père Marie-Dominique Philippe, dominicain, il venait régulièrement faire des conférences à la communauté. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas le père Marie-Dominique. Et il est venu pour me rencontrer très peu de temps après, je dirais une vingtaine de jours à peine. Je lui ai parlé de ce que je vivais, et puis il m'a écouté avec bienveillance et avec empathie. Et il m'a dit, bah, quand vous en aurez besoin, vous m'écrivez un petit mot et puis je tâcherai de venir. Et je lui ai écrit deux, trois fois des petits mots auxquels il répondait. Et puis peut-être il passait dans la communauté un petit peu plus souvent qu'avant. Et puis comme ça, donc, nous avons eu, je pense, à peu près 4 rencontres tout à fait normales. Moi, quand je suis entrée au Carmel, j'avais 21 ans. Quand j'ai prononcé mes vœux solennels, c'était en 71, donc j'avais presque 26 ans. Et lui, j'avais découvert qu'il était né la même année que ma mère, donc il avait 33 ans de plus que moi. Et donc c'était un homme d'abord dans ma communauté, même les sœurs qui ne le rencontraient pas personnellement le considéraient comme un saint homme. Il était unanimement révéré, respecté aussi pour son intelligence. C'était une référence à la fois spirituelle et intellectuelle. Et puis, au mois de juillet 1972, il est donc venu faire une conférence à la communauté. Et après, comme d'autres sœurs, à mon tour, je l'ai rencontré individuellement. Ce jour-là, il m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ?» Donc, je lui ai donné ma main, ce qui pour moi vraiment n'avait strictement aucune signification érotique. Et quand il a eu ma main entre les siennes, il s'est mis à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre, ce qui m'a un peu étonnée, mais bon, à cette époque-là, je recevais pas beaucoup de marques de gentillesse, je dirais. Et il m'a dit « Je veux te faire sentir l'amour de Jésus pour toi. Et puis, tu sais, ne t'inquiète pas, parce que je prends tout, mais je ne garde rien, tout est pour lui. » Et je sentais dans sa voix que le « lui » avec une majuscule, c'était Dieu, Jésus. Et donc, je n'étais pas du tout inquiète. Il a gardé ma main dans la sienne pendant toute notre rencontre. Après, je ne sais plus du tout ce que je lui ai dit, ni ce qu'il m'a dit. Et puis voilà, ça s'est terminé là. À peine un mois plus tard, il est revenu. C'était pas pour une conférence à la communauté, c'était juste pour moi. C'était toujours un dimanche, mais en fin d'après-midi. Et quand je suis arrivée au parloir, il m'a prise dans ses bras et il m'a caressé le visage. Il a déposé des baisers sur mon front, sur mes joues, et puis il a essayé de m'embrasser la bouche. Là, j'ai instinctivement eu un mouvement de recul qui l'a fait rire. Il m'a dit « Ta bouche, je l'embrasse avec mon cœur. » Moi, j'étais très étonnée, mais en même temps, je ne me posais pas de questions. J'étais dans les bras d'un saint homme qui me donnait à Jésus, en fait. Et le père Marie-Dominique se présentait comme il me disait, c'est une phrase qui revenait souvent dans sa bouche, qu'il était le petit instrument de Jésus. Et je le croyais, parce que j'étais très naïve. Et puis, à ce moment, je pense, c'est à ce jour-là, ou même peut-être la fois d'avant, il m'avait dit, si tu as des doutes, si tu as des questions, tu m'en parles à moi en premier lieu et en unique lieu. Ça a duré donc de 72 jusqu'en 74. Et l'été 74, lui, l'été, il venait pas parce qu'il partait prêcher dans d'autres carmels, dans des communautés, et puis il passait beaucoup de temps en Afrique. Et moi, j'allais vraiment très mal. Et un matin du mois d'août, je suis allée trouver ma prieure en lui disant « Vous savez, je crois que j'aurais besoin de prendre un temps de recul. » Et elle m'a répondu avec des mots très durs en me disant « Non, non, ça ne changerait rien du tout. » Et à ce moment-là, en l'entendant, il y a quelque chose qui s'est passé en moi comme une exigence intérieure qui me disait « Maintenant, fous le camp. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ma sœur, à ce moment-là, habitait Paris et elle m'a proposé de venir avec elle. Après ça, j'ai revu le père Marie-Dominique revenu d'Afrique. Je me souviens que la première fois que je l'ai revu, je lui ai dit « Si vous me dites d'y retourner, j'y retourne tout de suite, au Carmel. » Mais il a ri en me disant « Mais il n'en est pas question. » Et j'ai trouvé tout de suite du travail de femme de ménage. Donc je travaillais 6 jours par semaine, le matin. Et puis j'ai trouvé aussi une chambre de bonne. À l'époque, on trouvait des chambres de bonne pas chères, où le père Marie-Dominique a pris l'habitude de venir me retrouver. Et là, il avait évidemment beaucoup plus de liberté qu'au parloir du Carmel. Et très vite, nous avons fait ce qu'il appelait « prier ensemble étendu ». Alors, au début, c'était avec quelques vêtements, et puis de moins en moins de vêtements, et puis plus de vêtements du tout. Ceci dit, après avoir vérifié tout de même la présence de cette membrane avec son doigt, il m'a dit qu'il respectait ma virginité, et de fait, il n'y a jamais eu de pénétration pénis-vagin. Mais par contre, au bout de quelques mois, le père Marie-Dominique avait l'habitude de me faire prendre les positions qu'il voulait, sans parler, mais en appuyant avec ses mains. Donc, si j'étais debout et qu'il voulait que je m'assoie, il appuyait sur mes épaules, et puis docilement, je m'asseyais. Et puis, c'est comme ça qu'un jour où il n'avait pas grand-chose sur lui, j'ai compris qu'il souhaitait que je prenne son membre dans ma bouche. Ça me dégoûtait très légèrement. En même temps, c'est aussi les déformations de ma vie religieuse. Les humiliations, c'est bon pour la sainteté. J'étais sous son emprise, en fait. Hein. Je lui appartenais. J'étais sa chose. Et alors, un jour, il m'a dit, écoute, j'ai une de mes sœurs bénédictines qui vient de fonder en Saône-et-Loire un petit prieuré. Et je lui ai parlé de toi et elle serait d'accord pour t'accueillir dans la communauté. Très peu de temps après mon arrivée à Azé, il m'avait dit « Mon frère, le père Thomas, va passer à Azé. Je voudrais que tu lui parles de ce que nous vivons, toi et moi. » Alors ça, c'était nouveau, parce que jusque-là, c'était « Tu m'en parles à moi en unique lieu. » Donc, j'ai eu mon temps de rencontre avec le père Thomas après la messe. Et le père Thomas m'a dit « Le père Marie-Dominique m'a parlé. » Et le père Thomas a embrayé avec un petit discours dont l'idée essentielle et principale, c'était « La sexualité est un mystère immense et ce que tu vis avec le père Marie-Dominique, c'est une grande grâce d'amour qui vous rapproche de Dieu tous les deux. » Bénédiction du père Thomas. Ça se passait au mois de novembre. Et au mois d'août suivant, il est revenu. Il m'a donné rendez-vous le soir à l'heure où les sœurs étaient dans leur petite chapelle au sous-sol pour le dernier office. Et puis on savait tous les deux qu'après, elles allaient se coucher. Et là, le père Thomas m'a expliqué que les parties de notre corps que nous cachons le plus soigneusement seront aussi les parties de notre corps qui seront les plus glorifiées au ciel. Là-dessus, il pensait être déjà au ciel puisqu'il s'est mis à se déshabiller et qu'il m'a dit « tu peux poser tes affaires sur la chaise là ». Et j'étais en état de sidération, je pense, et je lui ai obéi. C'était l'homme auquel Marie-Dominique m'avait confié. Pourtant, Dieu sait qu'il n'était pas du tout attirant. Il avait 40 ans de plus que moi. En ce mois d'août 75, il avait 70 ans. Il était chauve avec juste une petite couronne de frisette autour de la tête. Il avait plus de dents, alors il avait un dentier qui devait le faire souffrir et qu'il mettait simplement quand il devait parler en public. Je pense qu'il l'avait enlevé à ce moment-là où on était tous les deux. Et puis il avait le corps d'un homme de 70 ans, pas très propre, sentant pas très bon et un peu délabré quand même. Et donc, il m'a dit, tu peux te coucher sur le lit, ce que j'ai fait. Il s'est mis à ramper vers le bas de mon corps. Il a mis sa tête entre mes jambes et il s'est mis à me lécher. Le père Marie-Dominique n'avait jamais fait ça. Personne ne m'avait jamais fait ça. Et puis après ça, il m'a dit, écoute, ce que nous venons de faire, alors ce sont les grâces que Jésus et Marie se donnaient mutuellement pendant leur vie terrestre. Et puis n'en parle pas au père Marie-Dominique, vaut mieux pas parce qu'il risquerait de trouver que je vais un peu trop loin.
Vous n'avez jamais eu peur de tomber enceinte ou de...
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de risques dans la mesure où tout se terminait dans ma bouche. Voilà. C'était leur manière à eux, à ces bons pères, de pratiquer une contraception que l'Église n'avait pas prévu d'interdire, je pense. J'ai compris assez vite que j'étais pas la seule à qui le père Thomas fixait des rendez-vous le soir tard. Néanmoins, j'avais tout de même mes rendez-vous avec le père Thomas. Bon, évidemment pas tous les jours, puisque j'étais pas la seule. Et puis voilà, mais quand même assez fréquent, je dirais à peu près tous les 15 jours. Voilà, donc ça continuait. Et donc j'étais arrivée à Trolley en 1960, en février 77. Et en 93, le père Thomas est mort. On a célébré ses obsèques grandioses à Trolley. Alors Trolley, c'est près de Compiègne. Le père Thomas habitait Trolley. Et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire le bilan de toutes ces années. Et j'ai commencé tout doucement à prendre conscience du mal que ces deux hommes m'avaient fait, et avaient fait aussi à tant d'autres.
J'avais 24 ans à l'époque. Je suis arrivée dans un monastère et c'était très différent de ce que je me suis fait comme idée, dans le sens que, oui, évidemment, je m'attendais à des difficultés, parce que difficultés, ça fait partie du chemin spirituel, mais je m'attendais à une vie dynamique. Et je suis arrivée dans un monastère où la plus jeune sœur avait l'âge de ma mère et les autres, ma grand-mère et plus. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que ce que je pouvais leur apporter, ça ne leur apportait pas de la joie. Ça les dérangeait plutôt. Non, elles étaient habituées à vivre comme cela et il fallait rien changer. Ce qui m'a posé vraiment la question au bout d'un moment, mais qu'est-ce que je faisais là? Je commençais vraiment à perdre pied, je commençais vraiment à tomber même dans un état proche de la dépression, j'aurais dit. Je voyais pas le sens de ce que je faisais et je trouvais que même les qualités humaines que j'ai eues avant, ça commençait à se perdre au bout d'un moment. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide. Parce que pas simplement je vais pas vers la sainteté, mais même je deviens pire que j'étais avant. Et donc en 2004, c'était très peu de temps après la célébration de ma profession solennelle, où il y avait un prêtre qui était venu pour nous donner une conférence. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, sa façon de parler de la souffrance. Donc je me suis dit, il faut que je lui en parle. Et j'ai fait appel à lui à un moment de détresse, je crois un an plus tard. Il était venu très très vite, il m'a écouté très longuement. Il m'a donné de bons conseils, il m'a dit qu'il me prenait en charge et qu'il allait m'aider désormais. Et une fois, au parloir, quand on a parlé, il a essayé de m'embrasser sur la bouche et j'ai reculé tout de suite. J'ai reculé, je le regardais avec incompréhension et lui, il a eu tout de suite le réflexe de dire « Oh pardon, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, que tout allait bien s'est passé, qu'il restait toujours là pour me soutenir. » Et ensuite, ça ne s'est pas passé comme ça. Au bout d'un moment, j'ai dû sortir du Carmel parce que je ne pouvais plus vivre sans soutien de l'extérieur et pratiquement sans soutien à l'intérieur non plus. J'ai trouvé un travail dans un village pas loin d'Aix, en Provence. Je me sentais très perdue et je me suis dit... mais peut-être si j'appelle Thierry Joseph, il va m'aider, il va me répondre. Et j'avais plus confiance en lui, j'avais plus le sentiment que je pouvais m'appuyer sur lui, mais j'avais personne d'autre, j'avais pas le choix. Je me suis dit, enfin, de toute façon, manifestement, c'est un bon prêtre. Et il est arrivé chez moi, il était assis à côté de moi sur mon lit. Et il a passé sa main sur mon épaule, il m'a fait tomber sur le lit, il a commencé à embrasser mon visage. Donc je me suis relevée en lui disant que je me sens très mal à l'aise de ce qu'il fait. Mais donc, il m'a fait retomber à plusieurs reprises comme ça. Je me suis relevée à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, il a abandonné. Il a dit, bon, je te demande pardon si ça te gêne, mais de toute façon, de mon côté, il n'y a rien. Au fur et à mesure qu'il revenait, ben, ses gestes étaient de plus en plus déplacés. Mes connaissances des relations sexuelles étaient très rudimentaires, dans le sens que j'étais quand même née et éduquée dans un pays qui à l'époque était soviétique, donc avec c'était très puritain dans le sens qu'on ne parlait pas de ces genres de choses-là. Et il y avait plein de pratiques qu'il m'a imposées que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je subissais dans tous les cas. À un moment donné, il voulait que je le masturbe. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas le faire et il a pris ma main et il a essayé de la bouger. Au bout d'un moment, il a lâché, il a vu que... Enfin, je dis que je ne savais pas même le faire, même s'il me le demandait. Et au bout d'un moment, il a vu que c'était vrai, que je ne savais pas le faire. Et il a dit, laisse tomber, il s'est masturbé lui-même. Ça a duré pratiquement un an et demi. Et à chaque fois, je le pardonnais. À chaque fois, il me promettait que c'était la dernière fois. Et à chaque fois, je lui croyais... C'est allé jusqu'au viol et c'est arrivé vers la fin de son séjour en France, peu avant qu'il parte pour Canada. Et là, il est allé jusqu'au bout. Ouais.
Je viens d'une famille catholique. J'étais aussi attirée par... une grande radicalité, enfin vraiment donner ma vie à Dieu. Et on m'a expliqué qu'il y avait une communauté près de Loche. Je me suis renseignée et j'ai foncé à l'aventure un peu sans savoir ce qui allait s'en suivre. Le premier jour où je suis arrivée dans mon école de vie, j'ai posé mes valises, on m'a réquisitionnée pour faire un gâteau. Et j'étais pas très contente parce que il y avait pas eu de bonjour, il y avait pas eu d'échange, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. Et puis la suite n'a pas été plus gaie. Nous sommes partis avec l'école de vie des frères de Saint-Jean faire un pèlerinage le troisième jour. Et il pleuvait, on marchait et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, enfin c'est pourri, les jeunes sont coincés. Je me demandais vraiment pourquoi j'avais fait ce choix et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais tenir. Le prêtre m'a dit très vite, parce qu'il sentait que j'étais un peu... au niveau de ma décision, j'étais pas très claire ni très sûre. Il m'a dit, vous pouvez me réveiller la nuit si ça va pas, il y a aucun problème. Et jeune fille, voilà, 18 ans... un prêtre très charismatique. J'ai été le réveiller, je crois, dès le premier soir. Et ce qui m'a étonnée, c'est des gestes qu'il a fait dès le début. Bon, ça restait soft, hein. C'était des caresses, mais au-dessus de mon pull. Et je me disais, mais il est très démonstratif. Le père Marie-Olivier Rabani, ce qui s'est passé après avec lui... ça a été de manière très insidieuse, très pernicieuse, par des gestes, des touchés. Au début, voilà, on met la main sur le pull, après c'est en dessous, après la main descend ou monte sous les vêtements. Enfin, ça a été très progressif, jusqu'à donner des baisers que j'appelais langoureux. Enfin, très passionné, passionnel, même le toucher sous la culotte, tout ça. Et ce qui était très étonnant, c'est que quand je sortais de cette chapelle où il me donnait ces gestes-là, il changeait carrément de personnalité. Il était dur, il me regardait pas du tout. Et ça, c'était très déstabilisant. Ça se passait souvent pendant la confession. Au moment du pardon de Dieu, Il disait que ces gestes qu'il posait sur moi, c'était de la part de Dieu. Et voilà, en plus, pendant la confession, enfin, dans le catéchisme de l'Église catholique, le prêtre est Dieu à ce moment-là. Alors, je me disais, ben oui, le bon Dieu me touche la poitrine, c'est quand même un peu bizarre. Mais il y avait aussi un phénomène d'emprise en parallèle. Et c'est presque pire que les abus sexuels. Et je me disais, mais tous les autres, ils ont pas ça. Et c'est une personne très importante. Et du coup, ça renforçait le phénomène de secret. J'avais envie de le garder pour moi parce que, presque jalousement, j'étais la grande privilégiée jusqu'en décembre. Après, ça s'est gâté parce qu'il y a eu une autre fille un peu sur le coup. Et puis, je voyais d'autres personnes qui défilaient, qui venaient régulièrement. Je me rendais compte quand il y avait un visiteur qui venait. Quand il allait dans le petit oratoire du prieuré où personne ne va et que c'était allumé, quand il fermait les volets, je savais ce qui se passait. Le père Marie-Olivier me demandait régulièrement de l'appeler papa. Il y a quoi de devenir dingue dans sa tête? Une fois, je lui écris, mais un papa, il donne pas des baisers. Et il avait essayé de m'embrouiller par des jolis mots et je devenais complètement cinglée. Enfin, mais oui, l'appeler papa, le papa du ciel, c'était le papa du ciel. J'arrive à 34 ans, je suis défaite de cette emprise. Je me suis rendu compte depuis quelques jours seulement que ce prêtre était vraiment pervers. Parce que avant, je trouvais tout le temps des excuses. J'ai mis surtout énormément de temps, presque 6 ans, 7 ans, à parler, mais alors sans accuser. Hein. Quand j'en parlais à ma maman, elle avait un regard affolé. Et elle était d'un coup très inquiète. Donc elle a écrit, et je l'ai appris bien après, au prieur général qui n'a rien fait. I got caught in the storm.
C'était Le Petit Instrument de Jésus, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Alexandra Longuet. Merci aux trois femmes qui ont accepté de témoigner, qui ne font plus aujourd'hui partie de l'Église. Merci également à Marie-Pierre Rimbaud, à Elisabeth Drévillon et Éric Quintin, auteurs du documentaire « Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église » dont je vous précise qu'il est disponible en replay sur Arte jusqu'au 3 mai. Sachez d'ailleurs que à la suite de la diffusion de ce documentaire sur Arte, la communauté de l'Arche a décidé d'indemniser les victimes, dont Michel France, que vous avez entendu, et également la communauté des frères Saint-Jean a publié une vidéo sur Facebook pour demander pardon. Si vous voulez la voir, nous avons mis le lien sur notre site. C'est Jeanne Delecroix qui s'est occupée de ça d'ailleurs, et qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire.